On est en train de continuer l'étude sur la nouvelle nature qu'on a reçue en Jésus, puis on est en train de voir des points pour qu'est-ce que ça sera de parvenir à maturité. Parce que la nouvelle nature, on l'a vu, on l'a reçue dans le but de devenir comme Jésus. Le fait qu'on soit né de nouveau, on est un bébé, un nouveau-né, mais c'était pas prévu par Dieu qu'on demeure bébé. C'était prévu par Dieu qu'on grandisse, qu'on maturisse, puis qu'on arrive à être à la stature d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que le but de Dieu, c'est de nous rendre parfaits. Il y en a-tu qui y croient? Il y en a-tu qui ont des doutes là-dessus? Si, j'ai pas demandé si vous l'étiez rendu parfait. J'ai demandé si vous croyez que Dieu veut vous rendre parfait. Ça fait une différence parce que là, tu regardes plus à ce que t'es, puis où ce que t'es rendu, tu regardes au but. Dieu veut m'amener là. On va y arriver. Ça, c'est écrit. La perfection, le saut, là, va être fait quand Jésus va nous enlever. Là, on va être pleinement parfait. En attendant, on vise la perfection dans ce que nous sommes, dans ce qu'on peut, puis avec l'aide du Seigneur. Amen. Puis on est tous à des niveaux différents, puis on n'est pas en compétition les uns avec les autres. On est plutôt là pour s'entraider. On n'est pas une équipe qui essaye de battre l'autre. On est une équipe qui essaye d'entraîner l'autre, de s'emmener tout ensemble à atteindre le but. Puis c'est ensemble qu'on se rend, puis qu'on va le devenir. Amen. Il faut s'attendre les uns les autres. Il ne faut pas que j'attende de me sanctifier, que l'autre soit saint. C'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'on s'attend dans le sens que vu qu'il n'y a pas de compétition, parce que si on marche un contre l'autre puis qu'on essaie de ralentir l'autre pour être le premier, c'est ça qui n'est pas de Dieu. Dieu veut qu'on arrive tous en même temps à la perfection puis qu'on le vise. La communication avec Dieu. Le titre du message que je vais vous dire aujourd'hui, ce que Dieu veut qu'on développe pour devenir comme Jésus, c'est de devenir des hommes et des femmes de prière. On va voir que, on le sait tous, Jésus priait sans cesse. Avant de faire quoi que ce soit, Jésus était en prière. Il était toujours en train de prier. Il passait des nuits à prier, dans la journée, il se retirait à l'écart. Parce que souvent, il y avait des foules qui le pressaient, puis ils voulaient tous recevoir des bénédictions, mais Jésus était obligé de se retirer pour prier. Prendre du temps de se ressourcer, d'être à l'écoute de son Père pour recevoir de lui des instructions, recevoir de lui les directions, puis de voir l'œuvre que Dieu, son Père, voulait qu'il fasse. Il était à l'écoute de Dieu, puis les apôtres aussi nous l'enseignent, mais on va regarder cette étude-là dans le but, c'est le point à atteindre. Oui, on a des fois, je le sais, on est humain, notre chair prend le dessus, puis on a moins le goût de prier. Parce que prier, c'est pas un combat charnel, c'est pas quelque chose naturel qu'on aime faire. C'est quelque chose de spirituel, la prière. C'est en esprit qu'on combat, puis c'est en communion avec l'Esprit-Saint, puis oublier le restant de ce qui pourrait faire plaisir à notre chair, puis même de dire, là, ça fait, là, faut que je prenne du temps avec le Seigneur, puis de renoncer des fois à des choses qu'on voudra faire ou qu'on pourra faire, dans le but de le consacrer à la prière. Puis ça, il faut apprendre cela, parce qu'on n'est pas venu au monde comme cela. On est devenu au monde spirituel, dans la nouvelle nature. Oui, ça, on a reçu ce qu'il faut pour le devenir, des hommes et des femmes de prière. Si on veut maturer, faut viser cela. Puis faut prendre des décisions pour y arriver. Première chose qu'on va regarder comme point principal, parce que c'est pas le point principal. Le point principal, c'est la prière. Mais si c'est possible qu'on ait ces moments-là intenses avec le Seigneur, c'est à cause de ce que le Saint-Esprit va faire en nous. Puis il y a une communication qui se fait avec Dieu. Nous, avec Dieu, il y a une communication qui se fait, puis on va voir que dans la communication, c'est pas juste des paroles. Communiquer, c'est plus large que juste communiquer en paroles. Oui, ça l'inclut communiquer en parole, mais quand on communique avec Dieu, on est en train de communier en même temps avec Dieu. Puis communiquer avec Dieu, c'est l'intimité. C'est ça qui est le sens dans la parole de Dieu. La communication avec Dieu nous est rendue possible parce que nous sommes nés de nouveau. Ça aurait été impossible d'être des gens qui communient avec Dieu si on ne sera pas né de nouveau. C'est à partir de ce moment-là que la vraie communion a commencé. Avant, on pouvait parler à Dieu, on pouvait parler de Dieu, mais on ne communiait pas avec Dieu. La communion est devenue possible après qu'on soit né de nouveau. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, Paul y donne comme une formule de bénédiction. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. La communication du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui a commencé là, au moment où on l'a reçu, le Saint-Esprit, parce que c'est la communication. Une communication, comme je vous disais, c'est comme deux personnes qui sont en train de se parler au téléphone. Il y a une communication qui est permise, qui est commencée lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit. Parce que la communication avec Dieu est possible parce que le Saint-Esprit est là. Puis tu as reçu le Saint-Esprit quand tu es né de nouveau. C'est là que la communication s'est établie. Avant, c'est comme si notre ligne était coupée. À cause de nos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. C'est vos péchés qui vous cachent sa face puis qui l'empêchent qu'il puisse vous écouter. Dieu, c'était comme s'il y avait un mur entre nous puis Dieu, à cause de nos péchés. Mais maintenant, en Jésus, tous nos péchés sont pardonnés. Fait que là, il y a une communion. On a reçu Dieu en nous, le Saint-Esprit rentre en nous. Maintenant, on a une communion avec l'Esprit-Saint qui nous permet une communication. Nous, on sait beaucoup dans les temps modernes du mot communication pour parler des médias, les vidéos, l'audio. Communication juste au sens verbal. Mais dans la Bible, le mot communication que là, c'est plus large que ça. Dans le grec, c'est communion fraternelle, communion, avoir en commun une contribution, prendre part, c'est aussi association, union, participation. C'est un mot-là, communication, et pas juste verbal. C'est une communication qu'on a parce qu'on est soudés les uns aux autres. Bien là, on se communique en étant unis, on se communique plus que juste que parler. Notre sourire, notre entraide, même financièrement, tous les moyens de s'échanger en tant que communion, en tant que membre de la communauté, mais du corps de Christ, on est unis, on a une communion ensemble, puis on peut se communiquer dans tous les sens. On se communique tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, notre connaissance, notre encouragement, les bénédictions, on partage. Mais avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Depuis qu'on a reçu la connexion, ça nous permet de communiquer avec le Seigneur, mais dans le sens plus que juste communiquer verbalement. On communique dans tout ce qu'il y a à nous donner. Il nous communique ses fruits, ses dons, ses bénédictions, prend soin, nous enseigne, il fait toute l'œuvre de Dieu en nous, fait qu'il nous communique plein de choses. Bon, on a part à la communication du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a prévu comme promesse, c'est tout donné par le Saint-Esprit. On a une possibilité de profiter de tout ce que Dieu a nous donné. Puis dans ces sens-là, là, ça, c'est association, partage, intimité. La communication, on va jusqu'à là. Fait qu'un couple qui est bien uni, ils communiquent ensemble. Ils communiquent dans tout ce qu'ils ont parce qu'ils sont unis. Bon, on a la même chose avec le Saint-Esprit. On reçoit toute chose par le Saint-Esprit. Puis ça, c'est dans la nouvelle nature qu'on a reçue. On a tout à gagner de rester fortement attaché à notre relation avec le Saint-Esprit, comme si on est en train de communier avec Dieu lui-même. Cette communion avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde va disparaître. Tout ce que vous avez, vous allez le laisser ici en partant. La seule affaire qui va rester éternellement, c'est votre communication, votre communion avec Dieu. Puis c'est ça qui va vous permettre de ressusciter puis d'être avec lui pour l'éternité. Il n'y a rien qui devra passer avant cette communion-là, cette communication-là que vous avez avec Dieu. Parce qu'il y a des choses dans ce monde qui peuvent vous en éloigner puis vous déconnecter. Puis vous allez être privé de ce que Dieu avait pour vous. Quand que je disais la semaine passée dans mon message qu'il parlait de mettre Dieu en premier, d'aimer Dieu tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force, c'était fallait que tu mettes ça en priorité parce que ça peut se défaire. Ça se peut que tu l'aies plus, ce désir-là de le faire passer en premier à cause des choses de ce monde. C'est pour cela qu'il faut pas se conformer au siècle présent, puis il faut chercher en premier tout de faire attention à cette communion-là qu'on a avec le Saint-Esprit. Comme ça sera le cadeau le plus précieux que vous auriez jamais pu avoir dans ce monde. Quelqu'un vous donnera une Lamborghini Contact, avec toute la maison, un château, là, tout avec une place de rêve. C'est rien comparé à la communion dans le Saint-Esprit qu'on a reçu en Jésus. Ça, c'est éternel. Toute l'efficacité de cette nouvelle nature-là qu'on a eue, parce que quand on a reçu cette nouvelle nature en se convertissant au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est entré en nous. Là, la communion a commencé, mais tout ça, là, ce que ça peut produire en nous, hein, mais c'est juste le résultat de ce que je vais continuer à garder et entretenir de cette relation-là qui va pouvoir être un effet, comment je vais dire ça, un effet bénéfique ou un effet qui va nous faire profiter de quelque chose. Ce que je veux emmener, c'est si on ne fait pas attention à cette communion-là, on peut être privé de tout ce que Dieu voulait nous communiquer. Le but est d'apprendre à mettre comme focus, il n'y a rien de plus précieux que ma communion avec Dieu, puis je dois faire passer ça en premier. Puis là, la communication que ça va me produire, c'est que je vais devenir comme un homme et une femme de Dieu. Parce que j'ai pris soin de faire attention à cette relation-là. Là, je vais commencer à parler un peu de la prière, puis si on applique ce qu'on va voir comme point là, sur la prière, cela nous permettra de devenir des hommes et des femmes de Dieu. C'est des choses qu'il faut faire. Puis c'est la Bible qui nous dit « faites ça, ou faites pas ça, faites pas ça ». Ça a des buts, là, si c'est là dans la parole. Faut les comprendre, mais il faut rentrer dans ce chemin-là. Parce que c'est le chemin que la nouvelle nature veut nous amener. On peut pas devenir comme Jésus si on n'est pas des hommes et des femmes de prière. Si on est des hommes et des femmes versés dans les choses de ce monde, puis on part tout le temps à courir après tout ce qui est devant nous, puis on néglige notre relation avec le Saint-Esprit, on n'avancera pas. On va rester des enfants. Puis les enfants, selon la parole de Dieu, c'est des hommes charnels, comme qu'on a vu dans un des messages. La prière est un moyen de connexion avec Dieu. On parle de communion, là, puis on parle d'échange, on parle de communication, mais la prière est un des moyens de connexion, puis c'est le moyen principal du départ. Faut que tu parles à Dieu. La prière, là, c'est parler avec Dieu. La communication, c'est que tu as avec ta femme, c'est premièrement d'y parler. La première chose qu'on a faite, peut-être qu'on y a fait un sourire de loin, mais on peut pas vivre tout le temps avec juste des sourires. À un moment donné, il faut que tu y adresses la parole avant qu'elle devienne ta femme. La communication, c'est premièrement le dialogue, de parler. Même après que tu l'as marié, tu n'as pas arrêté d'y parler. Y en a-tu qui ont arrêté de parler à leur conjoint? Non, parce que la communication, la base de communication, c'est le dialogue. Faut que tu parles à ton conjoint, puis elle va te parler. Puis on se dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis on se dit même des choses qu'on ne devrait pas se dire. Mais on se dit qu'on s'aime, puis on essaye de trouver ce qu'on aime tous les deux, puis qu'on s'enligne dans des affaires pour des choix. Bon. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. On peut pas penser qu'on peut vivre des semaines, des mois, des années sans parler à Dieu. Faut commencer à quelque part, là, puis dire, allô? Il va dire, allô? Je suis là. Mais il savait que tu étais là, il attendait que tu y parles. Lui, ça fait longtemps qu'il est là, il attend qu'on y parle. Mais c'est ça. Il attend qu'on prenne du temps pour dialoguer, pour développer cette relation-là. C'est pas juste au stage de allô. Allô, ça, c'est comme la première fois que tu te vois. Mais après ça, on parle de d'autres affaires plus profondes, puis de plus en plus profondes. Mais c'est, si on développe cela, on va en vivre des choses profondes avec le Seigneur. La prière est un moyen de connexion avec Dieu. Cela nous permet d'entrer et de garder la communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu prends le temps de t'arrêter à parler avec Dieu, d'échanger, de partager, d'écouter, parce que c'est pas un qu'un dialogue avec Dieu, c'est parler à Dieu, mais d'écouter parce qu'il y a des échanges, il y a des choses à nous dire. Si je dis comme une liste, là, j'aimerais avoir ça, tu garoches la liste, mais t'écoutes pas ce que lui dit, ça marchera pas, là. Faut développer l'écoute parce que souvent, il nous donne des choses à condition qu'on a des conditions d'établi. Puis il faut écouter, parce que Dieu, il n'est pas là pour nous. C'est le contraire, c'est nous qui sommes là pour Dieu. Il n'est pas un génie que tu frottes la bouteille, puis il apparaît juste quand tu as besoin de lui pour lui demander des affaires. Il veut plus que juste une relation de quelqu'un qui répond à tes besoins. Il veut une vraie relation d'amour, de communion. Puis là, il va y avoir de la communication. Mais quand tu parles à Dieu, ça l'entretient. Ça l'entretient, la relation, la communication. Mais la prière est le commencement. Parler à Dieu, c'est le commencement de la connexion. Dans Isaïe 55, les versets 6 et 7, ça nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. » Tandis qu'il est prêt. Ça veut dire que Dieu, il est là, mais il attendait qu'on y adresse la parole. Pourquoi vous pensez que c'est de même? C'est parce que Dieu ne tord pas les bras de personne. Il attend de voir si on le cherche, si on l'aime. Il y en a plusieurs versets qui disent cela, de chercher. Cherchez et vous trouverez. C'est que Dieu, il a choisi qu'on marche par la foi. Puis si je marche par la foi, si j'ai pas besoin de le voir, mais je sais qu'il est là. Puis si je sais qu'il est là, puis je suis intéressé à échanger avec lui, je vais m'adresser à lui. Fait que la prière est le commencement de ce qu'on peut développer comme relation avec Dieu. Il dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Que le méchant abandonne sa voie, puis l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez-vous, Dieu, c'est comme s'il est là, toujours là, puis attend qu'on aille à lui. Il nous tend les bras, puis attend qu'on aille à lui. Il nous a fait l'invitation dans sa parole d'aller à lui, puis attend qu'on dise, « Ah! » C'est vrai, le Seigneur est là, là qu'on commence à lui parler, puis de revenir à l'Éternel. Mais ça sous-entend aussi, si je reviens à lui, d'abandonner ce qu'il n'aime pas. Parce que c'est à moi à changer. Dieu, il est déjà parfait. C'est moi qui ne suis pas, qui nuit à ma relation. Mais il faut que je cherche à m'approcher de lui. Mais il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez veut dire, parle-y, invoque-le, appelle-le, dis-y que tu es intéressé à avoir un dialogue, des échanges, que tu veux y parler, tu vas apprendre. Parce que si tu t'es pas rentré encore là-dedans, c'est comme si le fait que tu l'invoques, ça va être le démarrage de cette relation merveilleuse-là qui peut aboutir à ce que tu deviennes comme Jésus. C'est dans la prière qui est le moyen de départ pour le rapprochement avec Dieu. Ça commence là. Moi, je m'en rappelle, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai commencé à lire la Bible, puis j'ai commencé aussi à parler à Dieu. Avant de donner ma vie, j'y parlais. Je savais qu'il était là, je le connaissais pas, mais je savais qu'il pouvait exaucer mes prières, je savais qu'il était Dieu. Fait qu'il y a rien qui était impossible à Dieu, pour moi, je le savais déjà. Puis j'ai vu la main de Dieu répondre à mes prières avant que je me convertisse. C'est parce que j'étais à lui, je l'ai invoqué, il m'a répondu, puis ça a augmenté ma foi. Mais ça, plus que tu vas invoquer Dieu, plus que tu vas pouvoir vivre des affaires avec lui, puis plus que tu vas pouvoir avoir une foi qui grandit. Mais si on y parle jamais, on verra pas grand-chose. Dans Isaïe 1:18, là, on parle encore du départ de notre relation avec lui dans ce verset-là. Il dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » C'est Dieu qui nous parle, puis il nous appelle à plaider avec lui. Il dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ça c'est rouge vin, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. » Voyez-vous, le départ de quelqu'un qui a le cœur dur et qui ne marche pas avec Dieu, son départ, c'est plaide avec Dieu. Invoque-le, appelle-le, demande-lui de l'aide. Puis tu vas avoir la surprise que Dieu va vouloir t'aider. Parce que Dieu répond aux besoins des gens. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Voyez-vous, Dieu, c'est comme s'il nous fait un appel, puis il nous appelle. Si quelqu'un ne trouve pas Dieu dans sa vie, c'est pas parce que Dieu ne voulait pas se révéler, c'est parce que la personne n'a pas cherché. Parce que la personne cherche, elle va trouver, c'est promis. La preuve, on est là, on est là. C'est sûr qu'il a commencé à nous parler avant, sans qu'on s'en rende compte, il a commencé à nous mettre des idées, pour qu'on commence à l'invoquer, parce que sans lui, on n'aurait pas pu rien faire. Mais quand on est conscient qu'il est là, c'est parce qu'il nous a déjà parlé, mais on va répondre à son appel, autrement dit. En demeurant dans la prière, parce que là, tu commences ta nouvelle vie, là, premièrement, quand tu t'as plaidé, puis t'as cherché l'Éternel, tu l'as invoqué, tu as demandé pardon, il t'a pardonné, le Saint-Esprit est rentré dans ta vie. T'arrêtes pas de parler à Dieu. Tu continues à développer ta relation avec Dieu. Tu continues à développer cette communication-là que tu as avec Dieu. Si tu veux devenir comme Jésus, faut que tu développes ça comme être. Tu vas prier autant que tu respires. Tu vas toujours être en train de parler à Dieu dans ton esprit ou de ta bouche, mais tu vas toujours chercher à garder le contact parce que tu as trouvé en lui que c'est le trésor précieux. Bon, autant que la prière, c'est le départ pour trouver Dieu puis recevoir de Dieu ses bénédictions, mais autant que la prière va te permettre, une fois que tu es déjà avec lui, de pas abandonner le Seigneur, de pas tomber dans des tentations. Le fait que tu demeures dans la prière, ça va te donner la force pour pouvoir résister, pouvoir combattre, puis pouvoir persévérer avec le Seigneur. On voit ça dans Matthieu 26, le verset 41. Puis quand tu comprends cela, tu comprends pourquoi que Jésus priait sans cesse, puis pourquoi que les apôtres nous demandent de prier sans cesse. Dans Matthieu 26, 41, c'est Jésus qui nous enseigne ça. Il dit, « Veillez et priez. » Priez, parlez à Dieu. Veiller, c'est rester réveillé, pas s'endormir, puis d'oublier tout cela. Rester réveillé, puis prier. afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Fait que veille et prie pour pas tomber. Ça veut dire, si tu te maintiens dans une vie de prière, comme Jésus le vivait, tu vas y venir tes tentations. Puis tu vas avoir la force d'être capable de dire non facilement. Pourquoi? Parce que tu te maintiens dans communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner la force, puis ça, tu vas toujours rester comme au-dessus des situations, tu vas y voir venir, puis tu vas être facile pour dire non. Si tu le contraire de ça, tu t'endors, puis tu arrêtes de prier, là tu marches dans ta chair, tu marches plus dans ce que le Saint-Esprit pouvait te communiquer. Il arrive la tentation, il dit la chair est faible. Qu'est-ce qui va se produire? Vous allez tomber dans le péché. Fait que, autant que la prière me permet d'aller à Dieu puis de démarrer cette communication-là, mais autant aussi de continuer à prier quand tu es chrétien, ça te maintient dans une force que tu vas être capable facilement de dire non au péché. Puis tu vas marcher comme Jésus. Parce que Jésus n'a commis aucun péché. Ça va être plus facile d'avoir des victoires. Dans un autre verset que la parole de Dieu nous enseigne, parce qu'il y en a plusieurs versets qui parlent de la prière, on n'aurait même pas pu toutes les mettre, il y en a trop. Mais de comprendre l'essence de la prière, la puissance qui se trouve à s'exercer une fois que tu as commencé à prier, que tu te maintiens dans la prière. Pourquoi vous pensez que ça sera puissant, la prière? Parce que c'est Dieu qui répond à la prière. Si tu marches dans tes forces, tu n'auras pas de puissance. Si tu marches dans la prière, c'est que tu t'attends à ce que Dieu fasse de quoi? Lui est capable de le faire. Lui a la puissance de te rendre victorieux. Fait que la prière, c'est un moyen de grandir dans le Seigneur puis de se fortifier. Dans Jude 1:20, ça nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Dans ce verset-là, c'est en train de nous dire que tu vas t'édifier toi-même. Ça veut dire que tu vas avoir une croissance dans ta vie chrétienne si tu pries par le Saint-Esprit. Si tu te maintiens dans la prière, tu te maintiens à louer Dieu. Mais la louange, je ne voulais pas l'embarquer, mais la louange est aussi un moyen dans la connexion. Mais on ne parle pas de la louange aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle juste du côté de la prière. Tu te maintiens dans le contact, à parler à Dieu, à prier Dieu, à demander des choses à Dieu, à rester dans ce contact-là, mais tu es en train de t'édifier toi-même. Tu es en train de construire ta foi. Tu es en train de devenir de plus en plus fort, comme Jésus. Parce que ce qui alimentait Jésus, c'était son temps de prière. Parce que si Jésus aurait arrêté de prier, lui aussi, il aurait tombé dans sa chair. Il aurait tombé dans le péché. S'il a pu vivre cette vie-là comme qu'il l'a vécu, c'est parce qu'il était continuellement en communion avec le Saint-Esprit. Tout se passe là. Ça se reçoit quand tu commences ta nouvelle vie. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais c'est de se maintenir dans cela qu'il faut développer. La prière est pour parler à Dieu, c'est bien entendu, quand tu pries, c'est de parler à Dieu. Puis les diverses manières de prier, comme je disais tantôt, c'est pas juste avec notre bouche. Dieu sonde nos cœurs, il voit notre cœur, il voit notre désir, il voit nos pensées. Tu peux être en train de faire par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Ça, intérieurement, t'aspires à des choses, puis il connaît ton cœur, puis il sait que c'est quoi les... Mais Dieu, il nous voit, puis les différentes manières qu'on peut s'exprimer, Dieu voit si vraiment notre cœur est tourné vers lui à vouloir le rechercher. La prière, c'est pour parler à Dieu, puis maintenir l'écoute de Dieu. Ce que je veux en venir, c'est quand tu prends des temps de prière avec le Seigneur, comme je l'ai mentionné un petit peu tantôt, c'est pas juste un monologue. Quand tu parles à Dieu, tu l'écoutes aussi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, Mais moi, dans mon cas, vu que, mettons, faut que j'amène un nouveau message tout le temps, faut que je sois inspiré, là. Je suis pas une bolle, là. École, j'ai eu de la misère. J'ai même pas eu mon diplôme de secondaire 5. Je n'ai eu un à cause du métier, pas à cause de ce que j'étais bien bon à l'école. Mais quand je veux que des révélations, je me mets en prière. Je peux être en train de chauffer mon véhicule, je parle à Dieu, ou chez nous, je vais parler à Dieu. Mais j'écoute aussi. Je parle, puis c'est pas juste un monologue. Tu parles, puis t'écoutes. Ben surtout si tu lui demandes, Seigneur, j'aimerais avoir, c'est-tu ta volonté, telle affaire, tu veux une réponse, ou Seigneur, inspire-moi pour savoir c'est quoi que tu veux que je parle. Mais là, tu veux une réponse. Si tu veux la réponse, il faut que tu écoutes. Si tu demandes, puis tu te sauves, tu n'écoutes pas, tu n'auras pas tu l'entendras pas, tu n'es pas dans l'état de recevoir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la prière est un dialogue. Tu parles à Dieu, Jésus, lui, il entendait Dieu lui parler, puis Dieu lui montrait des idées, mettons, sur le miracle qu'il devait faire. Ou quand il a eu le choix des 12 apôtres. Il a prié toute la nuit, puis le lendemain matin, il a choisi ses apôtres. Mais je suis sûr qu'il savait déjà les noms de tous ceux qu'il devait appeler. Il était à l'écoute, il a demandé pour les apôtres, puis il a pu les choisir. Il n'a pas choisi au hasard, là. Ben, même ces miracles qu'il dit, le Père me montrera des choses encore plus grandes. Bon, ben, chaque fois qu'il faisait des miracles, où il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il y avait révélation. Pourquoi qu'il y avait révélation? Parce qu'il écoutait aussi pour entendre Dieu, son Père, lui répondre. Fait que si tu veux développer la prière, c'est d'apprendre à parler à Dieu, puis d'apprendre à lui demander des affaires, bien entendu, mais tu vas aussi vouloir écouter. Puis là, tu vas avoir des... Puis, ça se peut que tu l'aies tout de suite. Il y a des choses que tu as une réponse tout de suite, puis il y en a d'autres, tu vas les avoir un petit peu plus tard. Continue à être à l'écoute de Dieu. Tu continues à louer le Seigneur, à remercier le Seigneur, puis à demander des choses au Seigneur. Tu peux demander plusieurs fois l'affaire quand tu insistes. Puis à un moment donné, t'es as les révélations. Pourquoi que t'es as? Parce que Dieu y est fidèle. Amen. Dieu répond aux prières, puis il l'a promis. Fait que la prière, c'est pour parler, puis de maintenir l'écoute de Dieu. Puis cela nous permet de rester réveillés. Parce que si tu es en attente de recevoir des réponses, tu es encore connecté sur Dieu. Tu penses encore à Dieu. Tu es encore dans les choses de Dieu. Ça te permet de rester réveillé. Arrête de parler à Dieu, puis arrête d'écouter Dieu. Il appelle ça dormir spirituellement. Tu t'endors. Tu n'as plus de contact. Tu ne vois même plus la main de Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas les réponses de Dieu. Tu as perdu la relation, la communication, tout ce qu'il pouvait te donner comme révélation. Tu le perds. Puis ça, le fait d'être réveillé parce que tu parles à Dieu puis tu reçois ses réponses, parce qu'on reçoit ses réponses, on est à l'écoute, on reçoit des réponses. Ça va te donner la force d'être réveillé, puis ça va te donner la force aussi de passer à travers ce qui doit arriver que tu ne sais pas encore. Regardez bien le verset dans Marc 13, le verset 32 à 33. Jésus marchait de même, lui, tout. On va le dire pourquoi après. Il parle des différentes choses qui sont révélées, là, les signes avant-coureurs avant son retour dans ce verset-là. Il nous dit à nous, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir, puis personne ne sait aussi quand est-ce qu'ils vont être les cataclysmes, les fléaux, ce qu'on voit, les sceaux et les trompettes dans l'Apocalypse, qui est la grande tribulation qui va arriver, puis les guerres, puis les tremblements de terre, puis toutes les choses qui vont arriver, qui vont être catastrophiques, comme si ça serait du jamais vu sur la planète. Et il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Même Jésus ne savait pas quand est-ce que ça va arriver, mais le Père seul. Mais il nous dit à nous, aux chrétiens qui vont être là, autrement dit, Prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez pas, vous ne savez quand ce temps-là viendra. Là, il est en train de nous dire, il va arriver de quoi? Personne ne sait c'est quoi vraiment. Il nous a donné des indices, des signes. Personne ne sait quand que ça va arriver, mais il nous dit à nous, veille puis prie. Amen. Veille puis prie, c'est être à l'écoute de Dieu, puis de demander à Dieu, parce qu'il dit dans un autre verset, quand vous verrez ces choses-là arriver, sachez que votre fin est proche. Ça veut dire que quand tu veilles puis tu pries, t'es là, t'es réveillé, tu vois des signes s'accomplir. Pourquoi que t'es vois? Parce que t'es éveillé. Comment c'est éveillé? C'est parce que tu tiens à l'écoute de Dieu, puis t'entends Dieu qui te le montre. Là, ce signe-là, c'est ça, là. Tu savais pas quand est-ce que ça arriverait, mais quand tu le vois s'accomplir, tu détectes ça parce que Dieu va te le montrer. Pourquoi il va te le montrer? C'est parce que tu veilles puis tu pries. Tu es à l'écoute. Puis là, Dieu va te le montrer. C'est des choses que Dieu a permis qu'on sache juste au fur et à mesure que ça va arriver. Il a pas voulu nous dire quand. Il a pas voulu nous dire comment, mais il nous a dit veille et prie. Puis quand vous allez voir ces signes-là s'accomplir, sachez que la fin est proche. Ça, c'est pour nous garder en éveil, nous garder attentifs, nous garder connectés, nous garder toujours. C'est ça qu'il faut développer, parce qu'il y a beaucoup de gens, des chrétiens, qui ne maintiennent pas leur vie de prière. Qu'est-ce que cela va produire? Ils verront pas les signes s'accomplir. Ils vont s'alarmer pour des affaires qui sont pas les vraies affaires, ou les vraies affaires vont arriver, puis ils verront pas venir, puis ils vont recevoir la marque de la bête en disant « c'était pas vraiment ça », puis ils s'attendaient à des choses, mais tout va arriver le contraire de ce qu'ils pensaient. Mais tout ça pour en venir, maintenant une vie de prière active. Veillez et priez afin que quand ces choses-là arriveront, on va les voir venir, puis on va avoir la force d'être capable de faire ce qu'on aura à faire, parce qu'on va être averti. La prière, c'est la respiration du chrétien. Cela nous permet de rester en vie spirituellement parlant. Un humain, là, peut pas s'empêcher de respirer. Combien de temps qu'on peut s'empêcher de respirer? Une minute et demie. Il y en a qui font de la plongée sous-marine 3-4 minutes. Ils sont bien entraînés. 3-4 minutes d'arrêter de respirer, puis va pas bien ben plus loin que ça parce que tu te noies. Hein? Mais spirituellement, la prière a le même effet de rester en vie spirituellement. Je dis pas qu'on va mourir spirituellement au bout de 3 minutes, mais maintenons pas une vie active de non-prière, parce que c'est sûr que j'allais mourir spirituellement. Alors, regardez bien le passage dans Isaïe 64, le verset 7. Qu'est-ce qui se passe quand les gens n'invoquent plus le nom de Dieu? Il y a comme une déchéance qui embarque à ce moment-là dans la vie des gens qui arrêtent d'invoquer Dieu. Isaïe 64, le verset 7, ça nous dit, « Il n'y a personne qui invoque ton nom. » Fait que dans cette période-là, le peuple d'Israël, là, les gens n'invoquaient plus Dieu. « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. » Ça veut dire tout le peuple il est endormi. Parce que quand tu arrêtes d'invoquer, tu dors. Il dit « Veillez et priez. » Ça veut dire quand tu es en train de prier, tu es réveillé. T'as la pensée à la bonne place. Quand t'arrêtes de prier, tu dors. Fait que c'est ça qu'il nous dit dans le Nouveau Testament, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ resplendira sur toi. Parce que quand t'arrêtes de prier, tu dors puis t'es comme un mort. Un chrétien qui dort, il est comme un mort. La seule différence qu'il y a entre un chrétien qui dort et un mort, c'est que celui qui dort, tu l'entends ronfler, mais il fait rien. Ils sont tous les deux pareils, ils font aucune œuvre, ils sont étendus tous les deux, mais il y en a un qui ronfle. C'est la seule différence qu'il y a. Mais la prière, c'est la respiration du chrétien. Ça te permet de rester en vie spirituellement. Dans ce verset-là, il dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Ça veut dire que quand tu arrêtes de prier, tu t'es endormi, puis là, Dieu, il te cache sa face. Tu vois plus le chemin. Tu vois plus où est-ce que tu t'en vas. Quand tu dors, tu es comme dans noirceur. Quand tu dors spirituellement, tu es comme dans noirceur, puis Dieu nous laisse périr par l'effet de nos crimes. Si on veut marcher bouillant pour le Seigneur, en mettant le Seigneur en premier, on va être connecté dans la prière et en train de veiller. Il nous cachera pas sa face à ce moment-là. On est dans connexion, on est des révélations. Il nous enseigne son chemin, il nous montre quoi faire, puis il nous bénit, puis il nous conduit. C'est là que ça se passe, la vie spirituelle. Si t'arrêtes de prier, c'est comme si t'arrêtes de respirer. Tu tombes à terre, puis il te laisse là. C'est pas ça que Dieu veut, là. Ça, c'est qu'est-ce qui arrive comme conséquence de ce qu'on arrête de prier. C'est dans la prière que nous recevons la force de passer à travers de nos épreuves puis de rester debout. Dans Luc 21:36, c'est ce que Jésus a dit, « Veillez donc et priez en tout temps. » La prière, là, c'est comme je dis, ça vous tient vivant. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On va être debout devant Jésus, on va persévérer jusqu'à la fin parce qu'on sera des gens qui veillent et qui prient. Si on arrête de veiller puis de prier, on s'endort, puis on s'étend avec les morts, puis on bouge plus, puis on fait plus rien. Puis on attend notre mort. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut nous maintenir dans la vie spirituelle, dans le combat, dans la lutte. La prière, c'est le moyen choisi par Dieu pour faire avancer son royaume. C'est Dieu qui a choisi que ça marche comme cela. Autant que Dieu a choisi qu'on marche par la foi, il nous a pas apparu, mais on sait qu'il est là, puis on a cru quand même si on le voit pas, puis on marche avec le Seigneur même si on le voit pas. On marche par la foi. Mais il a aussi établi que le royaume de Dieu va avancer, il va s'accroître par l'effet de notre combat dans la prière. Il a choisi que ça marche de même. Dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 1, l'apôtre Paul est en train de demander aux autres chrétiens, « Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Voyez-vous? Il dit, « Priez pour nous pour que la parole se répande et qu'elle soit glorifiée. » Ça veut dire qu'il y ait des gens qui aient accepté Jésus puis qui glorifient le Père. Ça veut dire que le salut des âmes dépend de nos prières. Si on prie, Dieu va faire que les gens soient encore plus, il va travailler plus en eux pour que les gens puissent changer. Il dit, priez pour nous pour que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Pour que la parole du Seigneur soit glorifiée, ou ce qu'elle a été entendue, c'est parce qu'ils l'ont reçue, la parole. Puis pourquoi que Paul nous dit de prier? Dieu aurait pu tout faire lui-même, décider de faire les choses par lui-même, puis dire, c'est moi qui les sauve tout seul, sans votre intervention. Non, c'est pas ça que ça dit dans ce verset-là. Ça dit, priez pour nous. Puis là, il va avoir ça comme résultat. Ça veut dire que Dieu a choisi que son royaume va s'étendre en réponse de la prière de ses enfants. Amen. Si on prie, on embarque dans le combat spirituel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nos prières sont pas vaines. Nos prières sont pas vaines. Toutes vos prières, nos prières sont entendues puis vont être exaucées. Mais il faut qu'on croit, puis qu'on embarque, puis qu'on veille, on prie, on demande, puis Dieu va faire avancer les choses. Il a choisi que le système fonctionne comme cela. C'est pour ça que c'est important, la prière. Faut le comprendre. Autant que pour ma vie personnelle, mais autant que pour le royaume de Dieu, on est des combattants quand on prie. On combat avec Dieu pour l'avancement de son royaume. La prière est le combat spirituel avec Dieu et non contre Dieu. Parce que des fois, on va prier, c'est comme si on se bat avec Dieu pour que Dieu fasse l'affaire. C'est pas se battre avec Dieu, dans le sens, c'est pas de se battre contre Dieu et qu'on essaiera de dire, forcer Dieu à faire quelque chose. C'est plutôt, on demande à Dieu de telle et telle intervention. On demande à Dieu qu'il fasse telle affaire, d'ouvrir les portes. On demande à Dieu des guérisons. On demande à Dieu des délivrances. On n'ordonne pas à Dieu. On se bat pas contre Dieu. On se bat avec Dieu contre l'ennemi. Fait que quand on vise nos combats, on commande au diable d'arrêter les choses. Mais on demande à Dieu. On travaille avec Dieu, puis on demande à Dieu qu'on ait un sens. On unit nos forces pour arriver contre l'ennemi. Parce que le verset dans Jacques 4:7, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». On n'est pas là pour ordonner quoi que ce soit à Dieu. On a à soumettre à Dieu, mais à résister au diable. Fait que le combat dans la prière, c'est contre l'ennemi. Il faut faire attention des fois de la manière qu'on prononce nos paroles, parce que des fois, on entend les prières, puis on a l'impression que les gens sont en train de se battre avec Dieu pour que l'affaire se fasse. Dieu est déjà prêt à exaucer, il attend qu'on appuie notre volonté à la sienne pour faire avancer les choses. Parce que Dieu voulait déjà que les gens y soient sauvés. C'est que les gens vont être sauvés quand on va s'unir avec Dieu, puis de demander ce que Dieu veut pour les gens, qu'il soit sauvé. Puis là, l'ennemi va reculer, parce que Dieu donne la victoire. Mais il faut s'unir avec Dieu dans le combat. Nous sommes appelés à prier tout le temps. Des fois, on peut se demander combien de temps dois-je prendre pour prier? 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. On est appelé à prier tout le temps. Il n'y a pas de temps qui mesure. On devrait rester dans le contact toute la journée. Que ce soit dans l'écoute, que ce soit qu'on y parle, qu'on y chante des chants, qu'on maintienne cette relation-là tout le temps. Si tu y arrives, là, ben, tu as toujours des choses qui essaient de te déranger l'esprit, puis tu as des choses, faut que tu te concentres, c'est correct. Dieu, mais tu peux demander à Dieu de t'aider, mais tu te ramènes tes pensées que Dieu est là et est avec toi. Mais tu vas toujours te maintenir en lui. Dans Éphésiens 6:18, ça nous dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Une entière persévérance, ça veut dire, « Lâchez pas de prier. Priez en vous levant, pensez au Seigneur, parlez au Seigneur. » Dans la journée, faites-les, jusqu'à temps que vous vous couchiez. Ça peut même arriver que vous rêvez que vous êtes en train de prier. Mais développons l'esprit de prière, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça pour notre vie spirituelle. Oui, tout est important. Je n'aime pas comparer une affaire dans parole avec un autre. On compare pas les deux, les trois, les 10 choses sont toutes importantes. Tout est important. La prière est importante, mais on va voir que la louange est importante. Les autres points aussi sont importants. On compare pas un avec l'autre. La prière, c'est important. Pour aujourd'hui, on en parle. Une autre fois, ça va être un autre sujet. C'est aussi important. Tout est important. Dans les combats, la prière peut être aussi accompagnée de jeûne. Faut pas penser qu'à cause qu'on n'est pas exaucé instantanément, que Dieu voulait pas nous exaucer. Dieu veut nous exaucer. C'est que des fois, il faut que le combat, la demande, soit accompagnée de plus que juste demander. Il y a des fois, là, comme dans, là, je ne voulais pas dire tout de suite ce verset-là, mais je vais vous le dire quand même. Jésus, là, quand il priait, il criait à Dieu dans des moments d'intensité dans la prière. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de versets de crier à l'Éternel, des supplications. Supplier, là, c'est plus que demander. C'est on veut la chose, on veut une chose, on la demande. On n'a pas la réponse tout de suite. Mais il faut mettre un peu plus de vouloir, mais pas se relâcher. Demander en suppliant, demander avec ferveur, demander avec des cris, avec des larmes. Ça dépend, il y a des gens qui pleurent facilement, il y en a d'autres que non. Je ne veux pas dire que vous êtes obligé d'avoir des larmes à tous les fois, mais ça peut arriver que vous en ayez. Mais ça met ça démontre à Dieu votre désir de vouloir la chose, puis l'attente de vouloir que Dieu fasse l'affaire est démontrée parce que vous mettez de la ferveur. Puis dans cette ferveur-là, tu peux dire à Dieu aussi que tu vas même jusqu'à jeûner. Jeûner, c'est pas parce que quand on mange pas, on est plus fort. Ça n'a pas rapport. C'est qu'on est prêt à se priver de certaines choses qu'on a droit dans le but de montrer à Dieu qu'on veut encore, on veut cette chose-là. Ça rajoute de la ferveur. Fait que là, on peut décider de pas manger pendant un repas. On saute le repas. Ça peut être trois repas. Il y en a qui jeûnent une semaine de temps sans rien manger. J'ai vu un gars qui a jeûné 30 jours. Dans la Bible, Jésus a jeûné 40 jours. 40 jours sans manger. Moïse a jeûné 40 jours quand il est monté sur la montagne. Puis il l'a fait deux fois en ligne parce qu'il a descendu puis il a cassé les pierres, les tables de pierre qui contenaient les 10 commandements écrits par le doigt de Dieu. Il les a cassés en descendant parce que le peuple s'était tourné dans l'idolâtrie. Puis il a remonté un autre 40 jours puis il a jeûné un autre 40 jours. Mais je dis pas que Dieu veut qu'on fasse là, mais ça peut arriver qu'il nous demande de jeûner, puis de jeûner, puis de dire même la période de temps qu'il aimerait que tu jeûnes pour le combat. On ajoute comme de la pression, pas de la pression contre Dieu, mais on démontre de l'intérêt à Dieu pour la chose, puis on demande en se privant. Ça rajoute dans la prière. Puis Dieu, comme dans l'exemple, il nous dit dans sa parole que c'est arrivé que les disciples n'ont pas été capables de chasser un esprit d'un enfant. Puis Jésus a répondu, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que il faut que tu pries et que tu jeûnes, puis le démon va finir par sortir. Si le démon ne sort pas quand tu y commandes, ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas le délivrer. Ça veut dire tout simplement qu'il faut que tu mettes plus de ferveur dans ta prière pour aller jusqu'à jeûner, puis tu vas voir, le démon va sortir. Mais Dieu peut nous le demander, comme ça se peut qu'il ne nous le demande pas, mais que nous-mêmes, on décide de mettre du jeûne dans nos prières. Ça fait partie du combat dans la prière. Dans un exemple de ça, on voit ça dans Daniel, au chapitre 9, le verset 3. Daniel, il faisait partie des Juifs qui étaient déportés à Babylone. Puis là, lui, il marchait avec Dieu, il était en communion avec Dieu, Dieu lui parlait, etc. Il avait une communion avec Dieu, puis il lisait la Bible, il lisait les écrits, les livres des autres prophètes. Puis il a vu, en lisant le livre du prophète Jérémie, il a vu que la captivité à Babylone avait été prophétisée par Jérémie, puis en plus, ça a été écrit que ça durerait 70 ans. Fait que lui, quand il a réalisé ça dans la Bible, il a voulu que l'accomplissement de cette prophétie-là s'exécute. Que le peuple d'Israël puisse sortir de la captivité. Dieu a dit que ça durerait 70 ans. Lui, il a réalisé, hey, ça fait 70 ans qu'on est ici. Ça veut dire que Dieu veut nous exaucer, puis il veut nous ramener. Daniel, comment est-ce qu'il a réagi? Quand il a compris ça, il dit, « J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Là, il tout après, tu vois quelle prière qu'il a présentée à Dieu. Mais quand il a vu que c'était pour que la prophétie était pour s'accomplir, puis qu'il était pour sortir, que le peuple d'Israël était pour sortir au bout de 70 ans, lui, il a voulu que ça s'accomplisse. Pourtant, Dieu l'avait prophétisé. Il aurait pu dire, Dieu va le faire tout seul, c'est lui qui décide. Non, c'est pas de même. La promesse était là, mais il a fallu que quelqu'un la saisisse par la foi, puis qu'il se mette à prier là-dessus. Il a prié là-dessus en jeûnant. Là, ça nous dit que dans la suite, Dieu a entendu ses prières. Daniel, il était connu puis il était appelé un bien-aimé de la part de Dieu. Parce que c'était un gars qui était connecté, puis il était à l'écoute, il était réveillé, il lisait les prophéties, puis il voulait savoir ce qui se passait. Quand c'est arrivé pour cet exaucement-là, il s'est mis à prier. Puis, il est entendu, que ça nous dit dans la parole. Dieu nous entend quand on prie. Amen. Dieu nous entend quand on prie. C'est pas en vain qu'on prie. Il est là, puis il a toutes gardé nos prières. Ça nous dit dans la Bible que dans l'Apocalypse, là, il y a une coupe. Puis, cette coupe-là, elle contient toutes les prières des saints. Il va l'acheter sur la terre un jour pour amener un jugement sur la terre. Mais toutes nos prières sont gardées et ça va servir en jugement contre le monde. Dieu va le montrer au monde comme quoi qu'il y a du monde qui a prié pour le monde. Fait que c'est pas perdu nos prières. Dieu les garde, puis un jour Dieu va. Mais Dieu exauce déjà les prières, mais un jour il va s'en servir encore pour le jugement. Le Seigneur nous a donné quelques promesses dans la prière. Je vais vous les dire rapidement. Dans Jean 15, 7, il dit, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, puis cela vous sera accordé. » Un autre verset dans Marc 11, 24, ça dit, c'est pourquoi je vous le dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Et vous le verrez s'accomplir. Les promesses sont là, puis Dieu veut qu'on ait de la foi. Il dit, quand tu pries, crois-le. Puis il dit, tout ce que tu demandes en priant, crois-le que tu l'as reçu, puis tu vas le voir s'accomplir. C'est pas formidable? Quand tu as des promesses de même, gênons-nous pas de prier. Demandons, restons connectés, restons réveillés, puis on va voir la main de Dieu dans nos vies. Amen.